VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui, édition du mercredi 19 octobre 2016, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Burkina Faso, nouvelle attaque hier près de la frontière avec le Mali.
En République démocratique du Congo, le rassemblement a appelé à une journée ville morte ce mercredi à travers le pays.
En Tunisie, le président Essebsi a prolongé hier de 3 mois l'état d'urgence.
En Irak, les forces engagées dans la reconquête de Mossoul, dernier bastion du groupe État islamique, ont regagné du terrain au second jour de leur offensive hier.
Le président Barack Obama conseille à Donald Trump d'arrêter de pleurnicher et de discréditer l'élection présidentielle du 8 novembre.
Et c'est le troisième et dernier débat Trump-Clinton ce soir. Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la minute écho. Pour l'instant, le journal.
Une autre attaque au Burkina Faso, non loin de la frontière malienne. Le village de Kéréboulé, vers Djibo, dans le nord, a été la cible d'assaillants hier dans l'après-midi. Cette région du Sahel, près de la frontière avec le Mali, fait l'objet d'attaques récurrentes depuis quelque temps.
D'après des sources contactées par un de nos correspondants, on pense à un règlement de compte entre Kogleweigo et bandits armés. Les groupes d'autodéfense Kogleweigo ont arrêté il y a quelques jours des bandits et certains ont pu fuir vers le Mali voisin. Ce seraient eux qui seraient revenus pour attaquer le village de Kéréboulé qui se trouve dans une zone d'orpaillage.
Un imam sénégalais reconnu coupable en juin d'apologie du terrorisme a vu sa peine aggravée en appel, d'un an de prison ferme à 2 ans. Le point avec Nani Talani.
L'imam Ibrahima Sey a été condamné à 30 mois de prison, dont 24 fermes, par la cour d'appel de Dakar. Dans une décision rendue le 11 octobre, a déclaré le président de la cour d'appel, Demba Kandi. Cette peine est 2 fois plus lourde que celle du tribunal de Kolda, qu'il avait condamné à 1 an de prison en juin dernier. Le parquet avait fait appel. Professeur d'histoire-géographie dans un lycée, l'imam Sey avait été reconnu coupable d'apologie du terrorisme, d'incitation à la désobéissance militaire et d'intolérance religieuse. Interrogé au procès sur ses propos lors d'un prêche prononcé en 2015, l'imam Sey avait affirmé avoir agi au nom de l'islam et contre l'impérialisme occidental et américain, évoquant le choc des civilisations et des religions. Dans ce sermon, il déclarait que tous les militaires envoyés au Mali sont des mécréants, allusion au contingent sénégalais au sein de la MINUSMA. Ibrahima Sey fait partie d'une dizaine de personnes, dont plusieurs imams, arrêtés en octobre 2015 au Sénégal pour affinité avérée avec Al-Qaïda au Maghreb islamique et le groupe État islamique.
En République démocratique du Congo, le rassemblement a appelé les Congolais à observer ce mercredi 19 octobre une journée ville morte sur toute l'étendue du territoire. Selon cette opposition réunie autour de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, c'est en guise de carton jaune au président Joseph Kabila, au pouvoir depuis 2001. Hier, l'UDPS, le parti de Tshisekedi, a rejeté l'accord signé à Kinshasa entre la majorité et une frange minoritaire de l'opposition et reportant à avril 2018 la présidentielle censée avoir lieu cette année.
La Cour pénale internationale rend aujourd'hui son verdict envers l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Il est accusé de subornation de témoins dans le cadre de son procès pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Jean-Roger Bion.
Jean-Pierre Bemba, ses avocats Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenda, ainsi que Fidel Babala, un député du parti du Mouvement de Libération du Congo, MLC, sont accusés d'avoir fabriqué ou présenté à la CPI de faux documents afin d'obtenir l'acquittement du chef de guerre. Un témoin de la défense, Narcisse Arido, est également poursuivi. Monsieur Bemba, âgé de 53 ans, a été condamné en juin à 18 ans de prison pour la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le MLC, en Centrafrique entre octobre octobre 2002 et mars 2003. Il a interjeté appel de sa condamnation à la fin du mois de septembre, dénonçant les vices de forme de son procès et évoquant notamment l'arrestation de son avocat durant le procès. Il s'agit du premier procès pour subornation de témoins de l'histoire de la CPI, lancé après que le bureau de la procureure a reçu un tuyau de la part d'une source anonyme. La Cour déterminera aujourd'hui si Jean-Pierre Bemba, accompagné de ses conseils, est coupable ou non d'avoir versé de l'argent et donné des cadeaux à des témoins ou de leur avoir promis une réinstallation et une sécurité afin qu'ils donnent de faux témoignages.
En Somalie, les rebelles islamistes Shebab ont mené hier une offensive éclair contre Afgoy, ville stratégique située à une trentaine de kilomètres au nord-ouest de la capitale Mogadiscio. Ils ont tué au moins 10 soldats et civils avant de se retirer.
Le patron des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou, va se rendre cette semaine au Sahara occidental, objet de tensions entre les Nations unies et le Maroc. Monsieur Latsou aura des entretiens à Rabat avant de visiter le quartier général de la mission onusienne à La Hayoune et les camps de réfugiés sahraouis de Tindouf en Algérie. Il s'agira de la première visite d'un haut responsable de l'ONU depuis le déclenchement d'une querelle entre l'ONU et Rabat à propos d'une visite controversée de Ban Ki-moon en mars.
En Tunisie, le président Béji Caïd Essebsi a prolongé hier de 3 mois l'état d'urgence. La mesure est en vigueur depuis presque un an en raison d'une série d'attaques djihadistes sanglantes. Eric Manirakiza.
Selon un communiqué de la présidence, l'état d'exception est prolongé sur tout le territoire national pour 3 mois à partir du 19 octobre. Les grèves et les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre sont notamment interdites. Il permet aussi de fermer provisoirement les salles de spectacle et débits de boissons. La presse n'est pas en reste. Le gouvernement peut prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, selon les termes édictés par cette mesure d'exception. Tunis a instauré l'état d'urgence en discontinué depuis un attentat contre la garde présidentielle le 24 novembre 2015 en plein capitale. Le pays a retrouvé une relative accalmie, mais des groupes djihadistes armés restent actifs et de nombreux jeunes Tunisiens sont dans les rangs du groupe État islamique en Irak et en Syrie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a averti hier que l'offensive lancée pour reconquérir Mossoul, dernier grand fief du groupe État islamique en Irak, serait difficile. Et il a assuré que l'aide à la population civile était aussi une priorité absolue. Les précisions de John Lyndon.
Mossoul sera une bataille difficile, il y aura des avancées et des revers, a prévenu le chef de l'exécutif américain dans une conférence de presse conjointe avec le chef du gouvernement italien, Matteo Renzi. Pour M. Obama, le début des opérations pour libérer Mossoul est un grand pas en avant, mais reconnaît qu'elle représente un immense défi humanitaire. Des dizaines de milliers de combattants irakiens ont été mobilisés pour la reprise de Mossoul. Cette offensive sans précédent fait craindre un exode massif des civils. 1,5 million de personnes vivent encore dans la deuxième ville d'Irak. Dans une vidéo diffusée par AMAG, l'agence de propagande du groupe djihadiste, on peut voir un combattant islamiste déclarant « Quant à toi, Amérique, nous jurons par Dieu que nous te vaincrons en Irak » et te feront sortir de ce pays défaite et humiliée. La perte de Mossoul sera un grand revers pour Daesh, qui avait autoproclamé en 2014 un califat sur les territoires conquis en Irak et en Syrie.
Sur le terrain, les dizaines de milliers de combattants irakiens mobilisés pour reprendre Mossoul au groupe État islamique ont gagné du terrain au deuxième jour de cette offensive. Le sort des habitants de Mossoul et des localités proches de cette grande ville du nord de l'Irak inquiète l'ONU. Et les États-Unis ont déclaré que les djihadistes du groupe État islamique retenaient les civils comme boucliers humains. Les djihadistes riposteraient selon des commandants irakiens avec des attentats suicides. Mais, disent les mêmes commandants, les forces gouvernementales progressaient sur les deux fronts de l'offensive.
Syrie, Moscou a annoncé hier un arrêt immédiat des raids des aviations russes et syriennes sur Alep en signe de bonne volonté et pour permettre l'évacuation des civils des quartiers rebelles de cette ville bombardée à un rythme intense depuis presque un mois. Washington s'est dit sceptique, compte tenu des précédents engagements et promesses non tenues.
Vladimir Poutine, aujourd'hui à Berlin, pour un premier sommet depuis un an sur la crise en Ukraine, avec les dirigeants allemands, français et ukrainiens. Il s'agit d'une rencontre qui sera aussi marquée par le différend sur la Syrie. Ce sommet avec Angela Merkel, François Hollande et Petro Poroshenko ne risque pas d'aboutir, de l'avis même des participants, à une percée spectaculaire alors que la mise en œuvre des accords de paix de Minsk de 2014 est dans l'impasse depuis de longs mois.
Le président Barack Obama a violemment attaqué hier Donald Trump, lui conseillant d'arrêter de pleurnicher et de discréditer l'élection présidentielle du 8 novembre, que le républicain à la traîne dans les sondages a dit déjà être truqué. C'est sans précédent et ce n'est basé sur aucun fait, a déclaré le président américain, jugeant cette attitude irresponsable. Le troisième et dernier débat télévisé entre Donald Trump et Hillary Clinton aura lieu ce soir. Nous y reviendrons en seconde partie de cette édition. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, John Linden.
Merck s'installe en Côte d'Ivoire, spécialisée dans les produits pharmaceutiques, les sciences et la technologie. La firme allemande a annoncé en début de semaine l'ouverture officielle d'une filiale à Abidjan, une inauguration qui est en ligne avec l'ambition stratégique de la compagnie qui entend doubler ses effectifs sur le continent et atteindre 500 millions de dollars de chiffre d'affaires d'ici à 2020. La Farge Holcim Maroc Afrique renforce sa présence sur le continent. La filiale, détenue à part égale par le cimentier Lafarge Holcim et la Société nationale d'investissement du Maroc, va racheter 50% du capital de la Société des ciments du Bénin et 54% des cimenteries du Cameroun. Au Maroc, les délégués syndicaux du personnel navigant de la compagnie aérienne nationale ont appelé hier à une grève de 48 heures. Ils réclament une augmentation des salaires, une majoration de 50% de la rémunération des heures de vol de nuit et l'instauration des frais de déplacement. De son côté, le syndicat des pilotes de Kenya Airways a annoncé la levée de son préavis de grève. Le syndicat précise néanmoins que le débrayage n'est pas annulé, mais simplement mis entre parenthèses. Kenya Airways fait face à des difficultés financières. Fin juillet, la compagnie a subi une perte nette de 230 millions d'euros sur les exercices annuels clôturés le 31 mars 2016, soit la pire perte de l'histoire de la compagnie.
À présent, notre page sport avec Élisée Oumpatine et Jean-Roger Bion. Tout d'abord, Élisée, Coupe d'Afrique des Nations 2017 au Gabon, le tableau des différents groupes ce mercredi.
Parmi les 16 finalistes, la Guinée-Bissau est le seul pays à n'avoir jamais participé à une CAN. L'Ouganda et le Togo ont obtenu leur billet au titre des deux meilleurs deuxièmes. Le Zimbabwe est de retour à une CAN après ses deux apparitions en 2004 et 2006, tout comme l'Égypte qui détient non seulement le record de participation, mais aussi deux titres. Quatre chapeaux ont été dévoilés sur la base des points obtenus et les performances réalisées lors des éliminatoires des trois dernières éditions de la CAN. Et puis la nouveauté, la CAF a également pris en compte les éliminatoires de la Coupe du Monde, surtout celles de 2014. Et on connaît déjà où joueront certaines têtes de série. Comme attendu, le Gabon évoluera à Libreville, la capitale. La Côte d'Ivoire, quant à elle, jouera ses matchs au nord à Yaoundé. Le Ghana et l'Algérie évolueront soit à Franceville dans le groupe B ou à Port-Gentil dans le groupe D. Le tirage au sort de cette 31e CAN va démarrer à 17h30 temps universel à Libreville. Élisée Rompati, VOA Afrique.
Merci Élisée. Jean-Roger Bion, le reste de l'actualité sportive avec vous.
Football européen, suite de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions ce soir. Parmi les matchs au programme, Barcelone contre Manchester City, Dynamo Kiev contre Benfica, Celtic contre Mönchengladbach et Bayern de Munich contre PSV Eindhoven. Hier soir, match nul entre CSKA Moscou et Monaco, un but partout. Match nul également 0-0 entre Bayer Leverkusen et Tottenham. Le Real Madrid a étrié Legia Varsovie 5 buts à 1 et Dortmund a défait Sporting 2 buts à 1. Victoire de Séville contre Dynamo Zagreb 1-0. Défaite de Lyon face à la Juventus 1-0.
Enfin, en cyclisme, le parcours du Tour de France 2017 est connu. Le départ sera donné le 1er juillet à Düsseldorf, en Allemagne, long de 3516 km. Le tour sera moins montagneux qu'en 2016, mais visitera pour la première fois depuis 25 ans les cinq massifs montagneux de France, a fait savoir le directeur de la course, Christian Prudhomme.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seroudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, des réactions continuent à être enregistrées après la signature hier à Kinshasa d'un accord entre la majorité et une partie de l'opposition. Signature qui a marqué la clôture du dialogue national. La plus grande partie de l'opposition affirme ne pas être concernée. Elle a appelé à la résistance, commençant aujourd'hui avec une journée ville morte. Eddy Issango a joint le président de la coalition des Congolais pour la transition, Emery Damien Kalwira.
Nulle part dans cet accord, on ne précise un mot sur l'avenir de M. Kabila. On ne dit rien. Et M. Kabila n'ose pas préciser qu'il ne sera pas candidat. En aucune manière, nous n'allons accepter un accord qui ne précise pas en esprit et en lettres que M. Kabila ne sera plus candidat. Et dans tous les cas de figure, la transition d'après décembre 2016 ne peut être gérée par M. Joseph Kabila. Ça serait une insulte au peuple congolais. Vous voyez avec quelle ampleur les Congolais manifestent dans les rues depuis plus de 2 ans. Ils se font tuer pour défendre la Constitution, pour défendre la République.
Est-ce que le piège dont vous parlez ne s'est pas refermé sur tous les acteurs congolais parce que la RDC est entrée dans une situation extra-constitutionnelle? N'importe quelle transition aujourd'hui violerait la Constitution.
Ceux qui veulent violer la Constitution, c'est ceux-là qui ont inféodé toutes les institutions d'appui à la démocratie pour empêcher la tenue de l'élection dans le délai constitutionnel. Ceux-là qui violent et veulent enterrer la Constitution, c'est ceux-là qui se sont mis dans un faux dialogue à marge duquel plus de 100 Congolais ont été massacrés par l'homme qui a 30 jours. Vous vous souvenez de la triste date du 9 au 20 septembre dernier. La transition sans Kabila, nous allons la conduire. Tous les principaux dirigeants de la transition vont prêter serment de façon solennelle en s'engageant qu'ils ne brigueront pas le poste de président de la République à la fin de la transition. La linéa premier de l'article 64 de notre chère Constitution donne les pouvoirs, donne les prérogatives à tout Congolais de protéger la Constitution contre tout individu ou groupe d'individus qui s'arrogerait le droit de violer la dite Constitution. Toute autre voie qui maintiendrait M. Kabila au pouvoir voudrait dire que nous voulons tout simplement l'embrasement de la République démocratique du Congo.
Est-ce que vous adhérez à l'appel à la ville morte le 19 septembre?
Nous réitérons aussi l'appel à la désobéissance civile, d'abord généralisée jusqu'au départ de M. Kabila. Et pour commencer, nous soutenons totalement la journée ville morte qui commence ce 19 octobre 2016.
Emery Damien Kalwira, président de la coalition des Congolais pour la transition.
Lubumbashi en RDC sur le 102.8 FM, c'est bien évidemment VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Au Burkina Faso, le balai citoyen tire la sonnette d'alarme, dénonce et exige du gouvernement une reprise en main de la sécurité des Burkinabés. La sortie de cette organisation de la société civile fait suite à une nouvelle attaque djihadiste qui a fait 4 morts au sein de l'armée burkinabé à Intagom, dans le Sahel burkinabé. Des détails avec un de nos correspondants à Ouagadougou, Issa Napon.
Aujourd'hui encore, les forces armées nationales, notamment le 11e régiment d'infanterie commando basé à Dori, viennent de perdre 4 vaillants soldats. Il s'agit d'agent Daboukou Adama, soldat de 2e classe Ouédraogo Alain, soldat de 2e classe Ouédraogo Zoël, soldat de 2e classe Bationo Ami.
Voici déclinée l'identité des quatre militaires tombés à Intagom après la dernière attaque djihadiste. Ils ont été décorés à titre posthume de la médaille militaire et inhumés à Ouagadougou. Le ministre en charge de l'administration des territoires et de la sécurité intérieure étouffe une rage intérieure, Simon Compaoré.
Il nous reste simplement à nous serrer les coudes pour faire face à cet ennemi invisible, j'allais dire. C'est dur, mais nous devons conjuguer nos efforts et dire que notre lutte ne sera pas vaine.
C'est une lutte pour la vie et nous n'allons pas laisser les choses aller. Nous allons coupler nos efforts.
Cette énième attaque fait sortir du bois bien d'organisations de la société civile. Dernière en date, celle du balai citoyen qui dénonce dans une rencontre avec la presse le laxisme dans la chaîne de commandement militaire et exige du gouvernement qu'il mette les hommes qu'il faut à la place qu'il faut afin de donner une réplique à la mesure des incursions meurtrières observées en territoire burkinabé. La gestion d'une question sécuritaire qui ne rassure plus, selon les principaux leaders de l'organisation, Maître Guy Hervé Kam est le porte-parole du balai citoyen.
Aujourd'hui, le balai citoyen a choisi d'interpeller. Ça veut dire que dans les jours à venir, il est évident que nous continuerons à travailler avec l'ensemble de la population burkinabé pour que nous mettons ceux qui nous dirigent face à leurs responsabilités. Parce que nous ne sommes pas prêts d'accepter que la sécurité des personnes et des biens au Burkina soit le dernier souci des autorités parce que justement, eux sont en sécurité.
L'État islamique, selon l'agence mauritanienne Al-Akhbar, a revendiqué l'attaque. Entre mars et octobre 2016, ce ne sont pas moins de 5 attaques qui ont eu lieu dans le Sahel burkinabé, témoignant d'une stratégie de harcèlement sans crainte par des groupes extrémistes des forces de défense et de sécurité burkinabé. Issa Napon Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Cameroun, les déficients visuels dans les rues de la capitale pour éduquer et sensibiliser les populations au respect des codes de la canne blanche et lutter contre les stigmatisations. Tel est l'objet de la campagne nationale qui se déroule actuellement au Cameroun. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
When a visually impaired is moving with his white cane,
Sam Lingam est au milieu de personnes aveugles comme un éclaireur. Dans la cité capitale, automobilistes et autres usagers de la voie publique suivent attentivement l'importance du respect de la canne blanche.
In between, and the right hand will be in. And he will lift up the left hand.
Une initiative appréciée à sa juste valeur par Coco Bertin de l'Association de réhabilitation des personnes handicapées au Cameroun. Selon lui, cette solution en faveur du respect de la canne blanche est un outil de mobilisation contre les injustices envers les personnes aveugles. Coco Bertin en fait également partie.
La canne blanche, c'est simplement cette canne que tiennent les personnes non-voyantes pour faciliter leur déplacement. La canne blanche permet également à celui qui vient en face de reconnaître la personne non-voyante. Je dirais que la canne blanche, si je ne l'ai pas, je suis simplement comme un voyant à qui on a caché les yeux. C'est donc un outil indispensable pour le déplacement des personnes non-voyantes.
Parmi les curieux venus écouter ces messages figure Marie Mboza.
On ne sait pas beaucoup ce qu'ils veulent dire. On voit parfois la canne blanche levée en ville, surtout les chauffeurs sont trop pressés. Donc la canne est levée, on ne sait pas ce que ça veut dire, on passe.
Non loin d'elle, Timothée Wunze, électricien, écoute ses aveugles. Il déclare qu'il a appris qu'il faut respecter les déficients visuels.
Quand ils sont, par exemple, sur un trottoir et qu'ils veulent traverser la route sur un passage clouté, par exemple, ils soulèvent la canne. C'est juste pour dire que, bon, les voilà et qu'il faut peut-être s'arrêter pour pouvoir les permettre de traverser. Ou alors, quand ils sont nouveaux, n'est-ce pas, des passages d'eau, il y a souvent des passages d'eau à côté de la route, ils frappent là-dessus. C'est juste pour dire, bon, qu'ils sont sûrement en train ou de monter sur le trottoir ou en train de continuer.
Face aux difficultés, Coco Bertin propose que le gouvernement camerounais introduise la situation des déficients visuels comme une matière à part entière.
Cette campagne nous a conduit dans plusieurs églises de Yaoundé et des Bolova. Nous sommes allés dans les établissements scolaires. Pendant les levées de couleurs, les proviseurs nous accordent quelques minutes pour présenter les signes d'utilisation de la canne blanche. Nous nous organisons également à aller vers les auto-écoles pour leur faire connaître la canne blanche.
L'environnement camerounais n'est pas toujours favorable à l'intégration des déficients visuels. Moki, Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Présidentielle américaine 2016, Hillary Clinton et Donald Trump se retrouvent ce soir pour leur troisième et dernier débat télévisé avant l'élection du 8 novembre, l'ultime chance pour le milliardaire républicain à la traîne dans les sondages, affaibli par les révélations sur son comportement déplacé envers des femmes. Jacques Aristide.
Ce troisième débat de 90 minutes aura lieu ce soir à l'Université du Nevada à Las Vegas au programme d'aide, immigration, économie, Cour suprême, les points chauds dans le monde et la capacité de deux candidats à être président. Madame Clinton s'y est minutieusement préparée. Elle n'avait aucun événement public ces deux derniers jours. Comme à son habitude, Donald Trump a continué à faire campagne dans le Colorado, enflammant ses partisans chaque jour plus agressifs envers son adversaire démocrate, dont il dénonce la corruption supposée et critiquant avec force une élection selon lui déjà truquée. Les gens qui sont morts il y a 10 ans votent encore. Les immigrants clandestins votent, a-t-il dit lors d'un meeting à Green Bay dans le Wisconsin. Dans le climat particulièrement destructeur de cette campagne 2016, 41% des électeurs américains et 73% des républicains pensent que l'élection pourrait effectivement être volée à Trump, selon un sondage Politico Morning Consult. Monsieur Trump, que plus d'une demi-douzaine de femmes ont accusé depuis 8 jours d'avoir eu des gestes sexuels déplacés, parfois il y a très longtemps, continue à répéter qu'il ne s'agit que de mensonges fabriqués de toutes pièces. « J'ai beaucoup de respect pour les femmes », a-t-il répété sur ABC, dénonçant des accusatrices en quête d'un peu de gloire, ou peut-être faisant partie de la campagne Clinton.
Et Jacques, ce n'est pas de tout repos non plus pour la candidate démocrate.
En effet, cette fin de campagne aurait pu être facile pour Madame Clinton, mais elle a également son lot de révélations gênantes. Des milliers d'emails du président de sa campagne, John Podesta, ont été piratés par Wikileaks et sont publiés quasi chaque jour. Ils montrent les calculs de sa campagne, son extrême contrôle, ses liens avec Wall Street, à travers ses discours payés, dont certains ont été publiés. Les sondages lui sont cependant de plus en plus favorables. Elle a creusé l'écart depuis 2 semaines, tant au niveau national que dans la douzaine d'États clés où se jouera l'élection. Elle a désormais une avance moyenne de 6,9 points dans les intentions de vote au niveau national. Et elle est en tête dans la plupart des États clés, à l'exception de l'Ohio, de la Géorgie, de l'Iowa et de l'Arizona. Mais dans ce dernier État, qui a voté républicain lors des 4 dernières élections présidentielles, l'écart s'est récemment nettement réduit et les démocrates y enverront demain une arme de choc, la très populaire et dynamique Michelle Obama.
Dans moins d'un mois, l'Amérique élit un nouveau président. Quelle vision du monde pour les deux principaux candidats, la démocrate Hillary Clinton et le républicain Donald Trump? Comment la grande communauté d'immigrants des États-Unis perçoit-elle ces deux candidats? Ne manquez pas le troisième et dernier débat présidentiel, immédiatement suivi d'une exclusivité VOA. Le monde regarde. Perspective des immigrants aux États-Unis. En direct sur voafrique.com, ce jeudi, à partir de 1h TU, Le Monde Regarde, voafrique.com.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140, vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.